Here we go with the main event of the evening. Let's get ready to rumble.
Squat, droite, gauche, droite, sur les zones pour mon bla bla bla. On y croit, nature au parti. Life de Rosemont, Arthur au Garci. On va jouer, carte sur table. J'en pense quoi du combat de Jean-Pascal? On va passer pro, boxer et podcast. Le temps c'est de parler, bienvenue sur le podcast.
And the new
en direct de ma cuisine à Rosemont, Montréal, c'est le podcast numéro 92 de ton émission préférée, Laurent s'écoute parler. Et j'ai reçu bon nombre de plaintes à propos de l'épisode 91, comme quoi le son n'était pas écoutable. Tenez-vous bien, je pense que j'avais mis mon micro à l'envers. Ça, moi vous le dire, là, je suis toujours encore très malhabile. J'ai assez hâte d'avoir assez de succès pour pouvoir engager quelqu'un qui va m'aider à gérer le son et la production parce que ce n'est pas ma tasse de café. Podcast 92, une fois de temps en temps, j'aimais ça, regarder l'année 92, qu'est-ce qui s'est passé. Puis un jour, quand que mon podcast va être rendu trop loin, tu sais, je pourrais plus le faire. En 92, c'est l'année que Myriam Bédard a gagné la médaille de bronze en biathlon, puis qui est devenue immensément populaire. Ça, c'est en 92, et sinon, c'est pas passé grand-chose en 92. Il y a eu l'inauguration du Biodôme, ça, faut que je vous en parle. On est une des rares places dans le monde qui a pris un de ces établissements qui a été conçu pour les Jeux Olympiques et qui l'a transformé. C'était le Vélodrome qui était sur place et c'est devenu le Biodôme le 19 juin 92. Robert Bourassa t'es allé célébrer tout ça. Jean Lapierre avait pris sa retraite, mais je pense qu'il est revenu 14 fois. Il y avait eu une émeute à un show de Guns N' Roses au stade Olympique, toujours le fun, vivre une émeute, ça fait quelque chose à penser. Le salaire minimum était à 5,70. Et voilà, ça fait le tour. Cette semaine, j'ai eu quand même une assez bonne semaine. J'ai rencontré, tenez-vous bien, je sors du travail tranquille. Je commence mes vacances. Fait que vendredi, je m'en vais travailler. L'employeur avait refusé de me donner congé. On dit, Poulain, t'es trop bon, on a besoin de toi. Fait que je m'en vais travailler, bon an, mal an, 9h35, il n'y a plus rien à faire. Fait que j'ai pris mes affaires, j'ai sacré mon camp. Quand je suis sorti de la bâtisse, Vincent Tremblay m'attendait. Fait qu'on a passé la journée ensemble, on est allé jaser avec Rénal Boisvert au club de boxe champion, avec George Cherry, l'ancien propriétaire qui était là. On aime ça aller aux champions, nous autres. On va jaser, puis ça sent la boxe, fait que ça nous détend. On est allé manger au IW parce qu'on est deux athlètes. Et toujours en compagnie de Vincent, on est allé chez nous jouer aux jeux vidéo. Puis Vincent m'a sacré une volée à Fight Night Champion, notre jeu préféré. Et aujourd'hui, on est allé au Francofolie voir un show d'un rappeur québécois qui s'appelle Raccoon. Puis ben, c'était triste quand même les Francofolies parce qu'il tolère vraiment pas beaucoup de monde, puis il fallait réserver les billets en avance. Fait que, tu sais, on pourrait être 35 000, mais on est, mettons, 400. Fait que ça donne une drôle d'ambiance. Point de vue débat des chefs, pour ceux qui suivent la politique, j'ai suivi les deux débats des chefs et je suis plus mêlé qu'avant. Fait que je suis toujours pas trop pour qui voter. Sinon, j'ai écouté un film aujourd'hui, j'ai écouté Le Guide de la famille parfaite, un film avec Louis Morissette, OK? Puis le film, c'est bizarre parce que le film, il est super mal coté sur Cinoche.com. Puis pour vrai, moi j'ai trouvé que c'était un 1h40 correct, là. Mais même que, tu sais, il y a ce genre de film-là que quand tu l'écoutes, je dis, mettons, j'ai pas ri aux éclats, puis je me suis pas tapé ses cuisses, puis je l'écouterai pas une deuxième fois, mais il y avait quand même une petite morale qui fait que c'était un assez bon film. Tu sais, en gros, c'est un gars qui s'appelle Martin, qui met énormément de pression sur sa fille Rose pour qu'elle réussisse. Il l'appelle championne, il met un stress incroyable, il l'inscrit au hockey, en clarinette, au cours d'anglais, il surveille toutes ses notes, il met de la pression. Puis à un moment donné, la petite fille craque, elle vole des copies d'examen, elle prend de la drogue, avant de la drogue, puis elle pète les plombs, puis il arrivera ce qui arrivera, là, c'est sur Netflix, puis ça bat des records. Quand les films québécois se ramassent sur Netflix, sont écoutés dans toute la francophonie, puis par les jeunes, fait que ça éclate des records sur les internets. Sinon, pour mes vacances, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Il y a la NFL qui commence demain. Mon équipe préférée, c'est les Cowboys de Dallas. Et les Cowboys de Dallas me font penser au boxeur Kelly Pavlik. Énormément d'attaques, mais aucune défensive. Et ça, je sais pas si vous le savez, mais en boxe, ne pas avoir de défensive, c'est pas une super bonne idée. Puis, ben, au football non plus. Tu sais, fait que quand t'es tout le temps en train de te faire marquer des points, c'est dur de te revirer. Puis là, je vous enregistre parce que mes parents voulaient faire un brunch familial le dimanche matin. Fait que j'enregistre une partie samedi. Je sais pas trop comment je vais ramancher ça. Mais au moment où on se parle, Evander Holyfield et Vitor Belfort se prépare à monter sur le ring. Donc, on va voir ce qui va arriver. Holyfield, qui avait l'air d'un vieillard cette semaine. C'était les actualités et la chronique humaine, la chronique nommée Marie-Pierre Houle, qu'on salue et qu'on n'oublie pas. Il y a une partie de moi qui a un peu mal au cœur de voir Evander Holyfield accepter de remonter sur le ring pour un peu comme sauver le spectacle de Fit.tv. Une drôle de carte. Anderson Silva contre Tito Ortiz. Il y avait David Haye qui a gagné au juge contre Joe Fournier. Là, on évoque Holyfield contre Vitor Belfort. Vitor Belfort, je suis un peu frustré de tout ça, mais je vais en profiter pour vous présenter Evander Holyfield puis faire le tour de sa carrière. Evander Holyfield est né en 62 à Atmore dans l'Alabama. Il a été champion du monde des lourds légers en 86, premier boxeur de la catégorie des lourds légers à unifier trois ceintures en 88. Il va passer chez les poids lourds et il devient champion du monde en battant James Buster Douglas en 90. Il va, après ça, il devient champion du monde unifié en battant Douglas. Donc, il est le seul à avoir unifié les poids lourds légers et les poids lourds. Il a été champion du monde de 90 à 92, en 93, 94, 96, 99, 2000, 2001. Il a été le seul quadruple champion du monde poids lourd de l'histoire de la boxe. Il a battu, écoutez, là, George Foreman, Larry Holmes, Riddick Bowe, Mike Tyson, Michael Maurer, trois fois boxeur de l'année dans le Ring Magazine. Championnat du monde à 46 ans contre Nikolai Valuev qui mesurait 8 pieds et 185 kilos. Il s'est battu 24 fois en championnat du monde, 16 victoires, 16 défaites, 1 nulle. 27 ans de carrière chez les professionnels. Je pense qu'on peut vraiment dire que c'est un des plus grands. 174 combats amateurs. Grand favori pour remporter les Jeux olympiques de 84. Puis c'est ça qui va arriver. Il va perdre aux Jeux olympiques. Disqualifié par l'arbitre, parce que l'arbitre écrit « break », puis lui, il swing une claque au Néo-Zélandais Kevin Barry, puis il va se disqualifier. Il va gagner la médaille bronze. Il est entraîné par l'ancien poids moyen George Benton. Puis c'est ça. Fait que champion est contesté des lourds légers. Il s'appelle, il choisit de s'appeler The Real Deal, qui je traduirais par le vrai pari. Et tout un, hein? Toute une traduction. On va se rappeler de lui. Moi, je me rappelle de lui beaucoup pour ses combats contre Riddick Bowe. Riddick Bowe était un monstre. Il était grand. Il était gros. L'autre, il venait des lots légers. Écoutez, ça m'a vraiment... Il y avait 25 livres entre les deux. Ça m'a fasciné. N'ayons pas peur des mots. Ensuite, l'histoire avec Mike Tyson où il se fait mordre d'une oreille. Le combat où on pense qu'il s'en va à l'abattoir contre Lennox Lewis puis il va s'en sortir, il va perdre la revanche. C'est ça. Riddick Bowe. Evander Holyfield aujourd'hui. Il a participé à Dancing with the Stars sur ABC. Il est allé se battre en Russie beaucoup à son retour en 2006. Il a affronté Sultan Ibrahimov et Ruslan. Il était supposé se battre, mais c'est ça. Là. Il y avait un combat entre Ibrahimov puis Chagaev. Là, Chagaev se blesse, l'autre il le remplace, puis Holyfield, ben écoute, il était rendu vieux. Là. Il y a eu des problèmes financiers, ce qui fait qu'il a vraiment trop étiré sa carrière. Plusieurs retours. Il est de confession protestante et évangélique. C'est comme ça qu'il explique sa grande confiance en lui. Et moi, je me rappelle qu'il écoutait toujours du gospel. Quand on le voyait, là, qu'il attendait. Pour ses combats, ben, il écoutait de la musique gospel. Donc, c'est comme ça que je veux me rappeler de Evander Holyfield et un peu moins de ses performances contre Vitor Belfort sur le ring. D'ailleurs, ça, c'est ce soir qu'ils vont se battre. Puis, je me rappelle une fois, j'écoutais la télé à Atlanta. J'écoutais la télé. Moi, j'étais probablement d'un voyage d'affaires. Puis, il y avait une publicité qui était écœurante, OK? C'est un gars qui klaxonne en fou. Puis là, c'est marqué « Faites attention lors de la rage au volant. Vous ne savez jamais qui est dans l'autre voiture. » Puis là, le gars, il continue à klaxonner en fou. Puis il sort un homme avec un imperméable noir. C'est Evander Holyfield qui marche vers l'autoauto puis qui dit « Est-ce qu'il y a un problème? » Et là, la publicité part puis c'est marqué « Vous ne savez jamais qui est dans l'autre voiture. Comportez-vous normalement. » Alors, c'était pour ça que j'ai fait tout le préambule sur Evander Holyfield. Klaxonnez pas en fou en voiture. Vous savez jamais que vous n'allez pas être pris à la prochaine lumière rouge puis que c'est Evander Holyfield dans le pick-up. Donc, c'était ma chronique histoire avec Evander Holyfield. Sweat on my face, the concentration on my look. My technique's on point, textbook. This is what I do best. I've been growing up, never giving up my life with no rest. Nous sommes dimanche matin, il est 7h55 et je me réveille. Podcast construit en deux temps. Je vais aller passer la journée avec ma famille. Donc, au réveil, je m'étais dit, première chose que je vais faire, je vais enregistrer le podcast. Vous entendez ça, les filles aiment ça, la voix enrouée du matin. Quand vous voulez, mettons que, je sais pas, vous parlez à Martine Vallière-Pisson et vous voulez l'inviter au restaurant, attendez votre voix du matin. Evander Holyfield s'est fait knocker par Vitor Belfort. Cette semaine, Martin Achard, que je cite et que je salue, mentionnait à quel point Holyfield semblait lent à l'entraînement et avait clairement de la misère à parler dans les entrevues. Ce gars-là aurait jamais dû être dans le ring. Tito Ortiz s'est fait geler par Anderson Silva dans un drôle de vidéo où, genre, Silva, il rebondit comme sur lui-même en défensive, puis boum, il y a ça, Ortiz. Drôle de patente. David Day a gagné en 8 rondes. Ça me dérange pas, moi, c'est les YouTubers, puis ce genre de cirque médiatique-là, mais il va falloir que, en revanche, ils font du matchmaking pour que, au moins les combats soient justes. Un peu, tu sais, comme Jake Paul contre Tyron Woodley. C'était intéressant. Là, on nous présente des combats complètement inégaux. Parlant de combats inégaux, pour vous dire à quel point le Mexique apprend pas. Hier, la championne du monde WBC, Yulihan Alejandra Luna Avila, 21 victoires, 3 défaites, affrontait Carla Valenzuela, 3-22 à l'Arena Olympico Laguna. Et 3-22-3, pas de victoire depuis 2016, contre une championne du monde. Vous voyez, ce sport-là et ce pays-là, le Mexique, avec la boxe, il y a clairement des problèmes. Il y avait une super... Là, je vous dis, j'étais un peu jaloux. Okay? Vendredi, présenté sur ESPN+, il y avait une magnifique carte de boxe. Mais là, quand je dis magnifique, c'est parce que c'était magnifique. Okay? Ils nous présentaient, premièrement, c'était sur le court central de Roland-Garros. Jaloux, puis la carte était solide. Il y avait Hugo Mikhalev qui faisait ses débuts pro contre Ezekiel Grégoire, je connais pas. Il y avait Volkan Koysek qui est un boxeur étranger. Lui, c'est un Turc qu'on amenait pour affronter le Français. Il a gagné. KO 4e. Il y avait Vladislav Sirenko. Vladislav Sirenko, je sais que je dis ça souvent, mais c'est un prospect chez les lourds de la même qualité que Arslanbek Makhmoudov. Ici, on entend beaucoup parler de Makhmoudov, mais dans le reste du monde, il y a des Makhmoudov qui traînent. Il y en a environ 8. Puis je peux pas vous dire lequel va émerger. Ici, on va vous dire Makhmoudov est unique. Ben, en Ukraine, ils vont aussi dire que Vladislav Sirenko est unique. Pourquoi? 18 victoires, 15 KO, seulement 26 ans, plus de 25 combats en... Présence en série mondiale de boxe où il a perdu contre Fraser Clark, qu'on a vu aux derniers Olympiques. Carrière amateur très respectable, où il a affronté littéralement tout le monde. Et là, il est chez les pros. Puis il est déjà 18-0, il est 30e sur BoxRec. Vladislav Sirenko à surveiller dans vos listes. Ensuite, il y avait Tony Yoka qui a affronté Peter Milhouse. Peter Milhouse... Oh, c'était respectable comme choix, là. Peter Milhouse, c'était 15-0, c'était un Croate. Peter Milhouse, c'était comme un prospect de catégorie B. C'était comme le meilleur prospect de la Croatie, tu sais. Puis là, ils sont allés le chercher, puis il est venu affronter Yoka Efesseron. J'aimerais, pour en revenir encore à Arslanbek Makhmoudov, que ces choses-là arrivent. Tu sais, tu vas chercher, mettons, le meilleur boxeur de la... Je sais pas, moi, la Serbie... Monténégro, le gars il est 19-0, une petite fiche montée, mais il y a 2-3 Américains sur sa fiche. Arnold Gergage, le meilleur Suisse à l'époque, ils l'ont amené contre DVD. Tu fouilles les autres pays, tu mets l'argent sur la table, puis tu vas chercher des candidats comme ça, qui sont invaincus, puis là tu te mets à faire le ménage des meilleurs pays. T'sais, tu fais, amenez-moi le meilleur Turc. Mais là, ces gars-là, ben, finalement, sont quand même bien classés puis sont invaincus. Fait une idée comme ça, là. Souleymane Sissoko, qui est un de mes prospects préférés, qui est signé, lui aussi, une machine, un gars qui est allé aux Jeux Olympiques, a battu Ismaïl Ilev et en grande finale. C'était pas la finale, je vous l'annonce comme je m'en rappelle. Mathieu Boderlic a gagné contre Igor Mikhalkin, en haut 7e round. Mais là, Mikhalkin, c'est pas la grosse affaire, mais Boderlic, C'est un vrai talent. Il vient ici à l'entraînement avec Stéphane Larouche. Surveillez-le. Absolument. Puis je vous dis, Cyrenko affrontait Alexander Oustinov, un boxeur de 6 pieds 9, 2,80, qui est quand même assez lent. Merci, qui est rendu à 44 ans. En Autriche, quand je vous parle de aller chercher des boxeurs qui sont... c'est drôle. Sans savoir, je vous disais, allez chercher le meilleur boxeur de la Serbie-Monténégro, puis mettez-le contre Makhmoudov. Ben, je sais pas pourquoi... vraiment, là, ça, c'est un hasard, je le savais pas. Philippe Ergovich est allé en Autriche affronter Marko Randojic, qui était 22-0. Ergovich, un autre qui est un prospect du niveau de Makhmoudov, a gagné une médaille de bronze. Je vous dis, il y en a 8 Makhmoudov dans le monde. Après ça, c'est de savoir c'est lequel qui va être le mieux matchmaker pour se rendre loin. Philippe Ergovich affrontait Marko Radovic, 22-0 du Monténégro. Tabarouette, j'ai été chanceux sur celle-là. Puis tu vois, là, il s'est fait arrêter. Mais le gars était 22-0. Bon, ça vous donne un genre d'idée. Moi, je n'ai pas ça, ce matchmaking-là. Puis finalement, Ergovich, il a marché sur le corps. Dalton Smith, qui est un super prospect à 140 livres. Dalton Smith, il est vraiment beau à voir boxer. Vous avez rien à faire, allez voir boxer. A gagné au juge contre Brian Pelaez. Puis John Ryder, lui, affrontait Joseph Jurko. Ryder voulait se garder actif. A même pas coupé de poids pour ce combat-là. Il boxait à 174 livres. Je vous le dis, un jour, vous allez vous lever un matin, puis John Ryder va affronter David Lemieux. C'est pas une prédiction. C'est comme, c'est trop naturel pour pas que ça arrive. Hier à Hollywood, Jono Carroll a battu Andy Vance. C'est juste pour vous dire que Jono Carroll, je le trouve vraiment bon. Puis ça fait une couple de fois qu'il fait des surprises. Il a pas protégé sa fiche, mais ne gagez pas contre Jono Carroll. Sinon, ben vous pouvez gager contre. Vous allez perdre votre argent. En Espagne, il y avait un combat très important chez les 154 livres. Kerman Lejagara a gagné contre Dylan Charat. La plus courte victoire que tu peux avoir là, par 81, un nul, puis 2,96, 95. Là, c'est assez court, merci. En sous-carte, de plus en plus, je veux dire, les Espagnols ou les Turcs ou les Suisses ou les Autrichiens, ils font des combats, puis ils se payent d'anciens champions du monde. Il y a du monde qui ont besoin de boxer, qui vont aller en sous-carte. Là, il y avait un championnat européen féminin en sous-carte. Marie Romero contre Amy Temlin. Et ça, c'est le prétexte pour mentionner de ne pas manquer le podcast 120 secondes avec Marie-Ève Albert. Et il y avait aussi qui? Il y avait Kiko Martinez sur cette carte-là. Bon, là, appelez pas vos familles pour ça. En Russie, j'ai pas les résultats, mais j'attendais Alexander Bespoutin qui affrontait Mauricio Pintor. Bespoutin, il y en a beaucoup des prospects dans le monde, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, quand on vous dit ici, au Québec, ce boxeur-là, futur champion du monde, peut-être, mais il t'en a une maudite gang qui protège la porte. Tu sais, comme là, Alexander Bespoutin, c'est un Russe au même poids d'Artem Oganesian. Mais il se bat. Artem se bat pas. Mais tu sais, un jour, si tu veux penser qu'Artem va être champion du monde, il va falloir qu'il écarte les Alexander Bespoutin de ce monde. Sinon, je pense que ça fait le tour. Y avait-tu d'autres combats en fin de semaine? Il faudrait que j'arrête d'aller vraiment par mémoire vous annoncer les galas. Dimanche le 12 septembre, juste pour vous dire là, comment que quand tu fouilles dans le monde, il y a de la qualité. Il y a Edos Yerpo-Sililou, 168 livres. Un autre, je vous le dis. Tu me dis que Éric Bazignan va être champion du monde. Mais moi, je te dis qu'Edos Yerpo-Sililou, il protège la porte. Tu sais, il va falloir que tu sortes, ces gars-là. Lui, c'est un gars qui a tout fait chez les amateurs, qui est 15-0, 12-0 aujourd'hui. Non, qui est 15-0 aujourd'hui. Il a 29 ans. Il a tout fait chez les amateurs. Mesure 6 pieds. L'école kazakh. C'est bien beau de dire Mbili va être champion du monde. Le mieux va redonner champion du monde. Mais ces gars-là sont actifs. Ils affrontent des meilleurs boxeurs que ceux qu'on voit au Québec comme adversaires. Ils prennent les devants sur nos prospects. Tu sais, comment il s'appelle? Edgar Berlanga est clairement passé devant tout le monde chez les 168 livres au Québec. Parce que il a été actif, il a fait parler de lui. Edos Yerbo-Sinilou, aujourd'hui, il fait un 12 rounds contre l'ancien champion WBA, ceinture louche, Lennox Allen. Donc, clairement, il prend les devants. Je vais donner un autre exemple. En sous-carte, Bek Nergagandet, 23 ans, méga prospect, série mondiale de boxe. Il y a une fiche positive. Il y a une défaite sur le champion du monde, Julio César de la Cruz. Amateur, il a tout fait ce qu'il avait à faire. 23 ans, méga prospect, à son cinquième combat, va affronter Bruno Sandoval. Sandoval qu'on essayait d'amener ici contre Chuck Elfin, puis que ça fonctionnait jamais au Québec. Là, il se bat pour la ceinture WBA international des 168 livres. Oui, il y a trop de ceintures. Oui, c'est louche, mais ça va lui donner un classement. Bek Nurmagandet. Ça, c'est une belle carte. C'est un bon adversaire, Bruno Sandoval. Sinon, en sous-carte, il y a un poids lourd de 3-0, Danila Semenov, qui affronte Vicapita Meroro. Je vous le dis, c'est vraiment la fin de semaine où on n'a rien à se mettre sous la dent, mais qu'il y a plein de bons combats à l'international. Il y a Oscar Valdez là, qui s'était fait pogner avec une tisane, puis finalement, ça a passé, puis la WBC, il n'a rien enlevé. Il a volé au juge Robson Conceyao vendredi soir. J'étais fâché. Conceyao s'est fait enlever un point pour frappage derrière la tête. Deux juges 115-112, donc le point enlevé. Et un juge 117-110. Conceyao semblait voguer vers une victoire. Faut que je vous raconte Gabriel Flores, un méga prospect sur ESPN+. On veut lancer Flores, 21 ans. Le gars vient de Stockton, Californie. Il remplit déjà l'aréna. Il avait battu Jason Velez, l'aspirant mondial, ex-aspirant mondial avant, à son dernier combat. On l'envoie contre Luis Alberto Lopez, 22-2. Et là, on est allé trop fort. Lopez swingait à deux mains sur Gabriel Flores. Son père, après, je pense c'est après le 9e, il dit « On arrête le combat, c'est exagéré, tu manges une volée, t'es mon fils. » Il dit « Quoi, tu te mêles, toi? » Il se lève puis il s'en va en plein centre du ring. L'arbitre fait fi des recommandations du père. Ensuite, le père monte sur le côté du ring pendant le 10e puis il capote. Arrêtez ça, parce que c'est le règlement, c'est pas de lancer la serviette, c'est de se présenter sur le côté du ring pour interpeller que le combat est fini. C'est ça le règlement. Fait que lui, il est sur le côté du ring pour interpeller, mais l'arbitre le voit pas, puis finalement, on s'en va au juge. Mais il a mangé, je vous le dis, il a mangé une volée qui risque de lui faire je trouve plus mes mots, c'est parce que je viens de me lever, mais il risque de refaire son idée sur sa carrière, là. Il risque de tout remettre en question sa carrière. Je vous le dis, genre de volé qui est au moins un an arrêté chez eux. Fait que c'était la grande chronique des combats de la semaine passée. Ça, c'est souvent quand t'as rien, quand t'as pas grand chose à parler. Parce que, pourquoi j'ai rien à parler? Parce que Eye of the Tiger Management annonce pas les adversaires du 23 septembre. On est le 12 septembre, la pesée est le 22, et il y a rien sur BoxRec. Je voudrais bien vous faire une grande chronique sur la boxe québécoise. Je voudrais bien vous annoncer les adversaires qu'on a au Québec. J'aimerais ça faire le tour puis vous dire quel combat intéressant pour Steven Butler. Je vous l'avais dit, je vous avais prévenu, j'ai fait une tonne de pause. J'ai été fatiguant. Je me suis fait sermonner par les gens des gens de sermonner, entre guillemets, mais je me suis fait écrire par des relationnistes de groupes de boxe qui me disaient « T'es fatigant, tu comprends pas, on n'est pas capable de les annoncer les adversaires, c'est la COVID, on n'a pas d'adversaires. » Mais là, je vous disais, ben un jour, on va apprendre les adversaires dans le ring. Ils seront même pas là pour la peser, tellement que vous allez les signer tard, les contrats. Mais là, on est à 10 jours de la pesée officielle à Québec et on n'a aucun adversaire sauf la finale. La demi, selon ce que j'ai compris, il y a quelqu'un qui... L'adversaire est pas vacciné, j'ai pas trop compris. Guillaume Coudé s'est cassé un bras. Bref, s'est brisé l'épaule. Bref, on a... j'ai absolument rien à vous dire sur la carte du 23 septembre. Je vous rappelle que la pesée est le 22. La conférence de presse est le 20 avec les adversaires. Chaque fois, d'habitude, il y a une petite conférence de presse. Puis là, on n'a pas d'adversaire. Je sais plus quoi penser. Je sais que la COVID existe, mais à un moment donné, je dis, la COVID existe. Je comprends, mais si tu fais de la boxe quand même, il faut que tu rentres dans le temps puis que tu respectes certains paramètres, là. Je sais pas. C'est peut-être moi qui ambitionne, puis je devrais me contenter d'acheter mes billets puis d'arrêter de me plaindre puis de regarder les adversaires. Merci, bye. Toujours en direct de ton podcast préféré. On est présentement le 12 septembre, on est à Rosemont, Montréal, comme d'habitude. Nous sommes avec Gabrielle, une jeune auditrice du podcast Laurence écoute parler. Gabrielle, tu m'as dit que tu adorais la natation, mais la natation, ça vient avec un inconvénient, lequel?
Qu'est-ce que j'aime pas avec la natation? C'est que pendant que je suis sous l'eau, je peux pas écouter les podcasts de Laurence écoute parler. Puis c'est bien plate parce que c'est super bon.
Merci. Toujours en direct d'une... Ben, je suis même pas dans ma cuisine. Je suis dans mon 2,5. Fait qu'imaginez, si je suis pas dans la cuisine, mais je suis dans ma chambre, tu sais. Ainsi va les joies de tout sacrifier pour un podcast. Moi, dès que j'ai de l'argent de lousse, je la mets dans le podcast pour vous autres. C'est que c'est comme ça. Beaucoup de questionnements ce matin à mon réveil sur les... Genre là, je vais vous faire ma chronique internationale. Chronique éditoriale. Beaucoup de gens qui se questionnent si Thriller devrait pas déjà s'en aller. T'sais. Cette compagnie, il faut que j'arrête de dire tout le temps, tu sais, ça c'est une béquille. Et mon ami Martine Vallée-Abisson m'a dit, il faut que tu te débarrasses de ta béquille. Il faut que tu parles mieux. Parce que ton talent, c'est un talent 98.5. Mais ils accepteront pas que tu as une béquille en onde. C'est ça que Martine Vallière-Bisson m'a dit. Elle m'a dit, t'es le meilleur, mais t'es à côté sur une paire de béquilles. Fait que là, j'essaye de mieux parler pour vous autres à la maison. Mais des fois, l'expression dit chasser le naturel, le naturel revient en galopant. Donc, est-ce que Thriller a vraiment sa place en boxe si c'est pour organiser Anderson Silva qui gèle Ortiz en un round, Evander Holyfield qui, clairement, c'était pas bon pour sa santé, puis en plus, on dirait qu'ils sont capables de corrompre les régies qui acceptent n'importe quel combat. Je veux dire, à part créer un genre de folklore, puis faire rire de la boxe, tu sais, qu'il faisait là, Holyfield à 58 ans, puis là, le monde mélange tout. Thriller, arrêtez de niaiser. Si vous aimez ça, organiser des combats, organisez-en comme, mettons, Roy Jones contre Mike Tyson, des affaires pas trop dangereuses, mais là, c'était dangereux hier, puis qu'est-ce qu'il faisait là, David Day à 40 ans, puis Victor Belfort, puis le pays, par exemple, il y a une seule affaire que j'ai envie dans les films, on va savoir sa shape à 58 ans, parce que présentement, j'ai l'air d'un gars de 108 comparé à Holyfield. Puis en plus, tu sais, pour vous donner une idée, pendant la finale entre Evander Holyfield, puis, mais tout le long du gala, il y avait Donald Trump qui animait le gala de boxe. Puis là, Thriller se sont tellement énervés, comme Trump est tellement vieux, il a dit qu'il fallait ramener les combats de 15 rondes. Mais là, Thriller a mentionné que le 4 octobre prochain, entre Teofimo Lopez puis George Cambosos, il aimerait ça avoir Barack Obama à l'animation. Moi, j'ai hâte de la journée où je vais écouter, mais tu sais, dans les paramètres de Thriller, j'ai hâte à la journée où je vais écouter Donovan Razor-Ruddock contre Jean-François Bergeron animé par Stephen Harper. Parce que ça va arriver, ça au Québec probablement. Nous, on reprend souvent les idées américaines 2-3 ans en retard. Donc, il y a présentement vraiment des négociations pour que Barack Obama anime le combat de Teofimo Lopez contre Josh Cambosos. C'est commencé ça, les négociations. Ainsi va la boxe. Cette semaine, il y aura une annonce. Terence Crawford va affronter Sean Porter le 20 novembre. Porter, moi, je le vois toujours comme un boxeur moyen, mais qui a tellement de cardio, puis tellement de vouloir, puis tellement un bon athlète, qui finit par déranger tout le monde dans le ring. Donc, il va probablement aussi déranger Terence Crawford, qui va vouloir s'en débarrasser pour montrer à Errol Spence que c'est lui la grosse affaire. David Avanesyan veut affronter Conor Bean. Conor Bean, présentement, assomme à peu près tout ce qui bouge, mais il est vraiment matchmaker un peu douillet. Donc, j'ai hâte qu'on amène un peu de difficulté à tout ça. Bob Arum confirme que Fury et Wilder 3 auraient lieu le 9 octobre 2022. Donc, parce qu'il a annoncé 2021, mais moi, je crois pas ça. Fait que je vous dis 2022. Donc, est-ce qu'on va avoir Fury Wilder dans un mois? Je sais pas trop ce qui se passe là. Puis on va suivre Bob Arum. On va suivre Bob Arum cette semaine avec ses bonnes histoires. Tim Bradley est sorti cette semaine pour dire faites attention. Canelo s'est tellement amélioré sur son endurance. Il est probablement dans sa sauce. Tim Bradley, ça, c'est des accusations graves. Tu peux pas faire ça, sortir publiquement, accuser le monde d'être sa sauce sans preuve. T'sais. Voyez-vous, moi, je fais ça demain matin. Je dis, hey, j'ai vu Vincent Tremblay en fin de semaine. Il est sa sauce. Voyons, Vincent va me poursuivre. Il a une carrière, lui, à TVA. T'sais, oui, son physique s'est grandement amélioré parce qu'il fait attention, mais il est pas... Il n'est pas sa sauce. Les vidéos de Ryan Garcia ont vraiment fait le tour du monde où il fait aller la vitesse de ses mains. Usyk Joshua, on est à quelques jours. La semaine prochaine, on va en parler de fond en comble. Ça va être incroyable. Shakur Stevenson contre Jamel Herring. Ouvrez vos télévisions. Manquez pas ça pour tout au monde. Billy Joe Saunders a annoncé sa retraite. Il a dit la seule chose, si vous voulez pas que je prenne ma retraite, donnez-moi Chris Eubank Jr. la revanche. Je pense qu'il voit l'argent. De l'Angleterre traîner. Les livres sterling. Tyson Fury a dit ça a l'air vrai, là, le 9 octobre. Wilder Fury 3, puis là, Wilder dit prépare-toi, Joshua, t'es le prochain sur la liste. Il y a comme une liste de 4 combats à 100 millions chaque. Mickey Garcia va affronter Sandor Martin le 16 octobre prochain en finale sur DAZN. Je suis content parce que pour que la boxe aille bien, t'as besoin de Mickey Garcia. Puis t'as surtout besoin de Mickey Garcia à 140 au lieu de 147. Mais ça, c'est un autre dossier parce que son combat est à 147. Moi, je rêve d'avoir Garcia à 140, puis je rêve qu'il appelle Ivulis comme pour faire un combat, puis que Ivulis le batte. Ça, c'est une de mes idées. Là. J'aimerais ça que ces choses-là arrivent. Eddie Hearn a demandé pour... Là, ça brasse vraiment, hein, parce que pour faire ce fameux combat-là du 9 octobre, Eddie Hearn fait aller ses contacts, puis là, il essaie de vraiment de provoquer le combat. Le 9 octobre. Il a appelé la WBC. Il leur a dit s'il refuse le combat le 9 octobre, vu qu'il y a un contrat avec Wilder, j'aimerais qu'on lui retire le titre de la WBC. Puis des fois, la WBC, c'est une belle gang de têteux qui sont proches des promoteurs. Donc, ça pourrait arriver, je vous le dis. Faites attention. Andy Hunt pourrait avoir raison ou le combat pourrait être annoncé dans un mois. Donc, c'est à surveiller, c'est à surveiller. Brandon Figueroa, testé positif à COVID. Son combat contre Stephen Fulton va arriver plus tard. Fulton, un autre méga prospect qui a monté et là, qui est rendu à l'époque d'un combat de championnat du monde. Joe Joyce a callé Joseph Parker, mais il call Joseph Parker à chaque semaine. Yordeni Ugas a reçu son titre de la WBA qui a gagné contre Pacquiao dans un colis envoyé probablement par Post Canada, le meilleur service de livraison. Donc voilà, c'était toutes les chroniques, la chronique internationale. Je salue Rénal Boisvert à qui on est allé piquer une jasette, moi et mon ami Vincent Tremblay. Rénal Boisvert est le meilleur. Tu sais, Rénal Boisvert, il a toutes les connaissances sur la boxe. Quand il écoute un combat, lui, il voit toute la technique, les pieds qui bougent. Il va voir toutes les affaires. Tout techniquement, c'est le meilleur. Mais quand c'est le temps de l'expliquer à des gens comme moi puis Vincent Tremblay qui connaissent rien à technique, on est des gars d'histoire, on aime ça, les petites histoires autour de la boxe puis placoter, mais on n'a pas cette technique-là. C'est un excellent vulgarisateur pour expliquer les choses aux gens qui ont pas cette science de boxe-là comme moi et Vincent. Donc, on a jasé beaucoup avec Rénal. C'était passionnant et instructif. C'est probablement le meilleur monsieur de la boxe québécoise. Mais c'est quelqu'un que si tu poses des questions, tu vas avoir les vraies réponses. Il est pas dans le nécessairement dans le politiquement correct, tu sais, ou en mode politicien. Tu poses des questions, tu as les vraies réponses. Puis ça, c'est toujours intéressant. Puis ça existe de moins en moins de nos jours, ce genre d'individu-là. Rénal, Boxing Town Québec et Laurence Écoute Parler t'aiment beaucoup. Donc, c'était le podcast numéro 92. On prépare une grande fête pour le podcast numéro 100 avec des ballons, des confettis et du gâteau pour tout le monde. J'aurai le temps de vous revenir. Merci d'avoir été là. Ce soir, 19h, disponible pour toujours sur la chaîne YouTube, une grande entrevue avec Kenny Lamoureux. Kenny Lamoureux, trois choses. Il y a des tatous d'en face. Il est deuxième au monde dans le mangeage épicé, dans la ligue de mangeage épicé. Et en boxe amateur, il rinçait les frères Wilcox. Il battait Tony Lewis une main attachée dans le dos. Il est vu encore comme un des plus grands talents que le Québec a connu. Nous l'aurons en entrevue ce soir à 19h. Donc voilà qui fait le tour des actualités. Moi, je vais vous le dire, tu veux pas manquer ça, l'entrevue avec Kenny Lamoureux, parce que ça va être drôle. Probablement que je vais aller me chercher de la sauce épicée, puis je vais manger épicée, faire le monde, et je vais faire quelque chose, là, toujours prête pour un petit stunt. Merci, bonsoir.
Ben, 85, c'est moi, Tarzan Tyler, Tarzan la bottine Tyler, qui va rire de vous autres, les Québécois, le monde de la ville de Québec, parce que mon champion, c'est Kate Tonga, il va vous le battre, il va le battre comme un tapis, votre Ricky Martel, votre petit Québécois, votre petit gars de la ville de Québec que vous aimez tant.